Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Opondé. François Biya doit être transféré devant son juge, soit carrément libéré, car sa détention prolongée devient arbitraire. C'est l'essentiel de la correspondance du président d'Akage à l'administrateur général de l'ANR après plus d'un mois de garde à vue dans leurs locaux de l'ancien conseiller spécial du président de la République. La femme congolaise doit s'impliquer dans la protection de l'environnement afin de se mettre à l'abri des effets du changement climatique et des diverses catastrophes. Ce message est lancé par l'ONG Action des volontaires pour la solidarité et le développement en marge de la Journée internationale de la femme. Le secrétaire général des Affaires étrangères est notre invité ce matin. Joscar Kabungongoy parlera de la reprise de la délivrance des passeports, mais aussi de la situation des Congolais en Ukraine. Bonjour à tous. Après plus d'un mois de garde à vue à l'ANR, l'ancien conseiller spécial du président de la République, François Biya, doit être transféré devant son juge, soit carrément libéré, car sa détention prolongée devient arbitraire. C'est en ces termes que le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, s'est adressé dans une lettre à l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements sur le dossier François Biya. Georges Kafiamba est au micro de Jeff Ngoy.
La CAJ a adressé une lettre à l'administrateur général de l'ANR pour lui exprimer sa désapprobation totale au regard du caractère arbitraire de la garde à vue de M. François Biya Kasonga, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, depuis plus deux mois. Elle a attiré l'attention de l'administrateur général de l'ANR sur le fait que cet état des choses contraste gravement avec les discours portés par le président de la République en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme et surtout des principes de l'état des droits. Donc, elle lui recommande vivement de prendre des dispositions pour soit les remettre en liberté, soit les transférer devant les juges compétents s'ils ont des raisons de croire que les faits pour lesquels il a été arrêté peuvent être constitutifs de faits d'atteinte à la sûreté de l'État.
Rappelons que c'est depuis le 5 février que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a été arrêté par l'ANR sur fond de rumeurs, des tentatives d'un coup d'État. Trois jours après son arrestation, le porte-parole du président de la République avait fait part des accusations portées contre François Biya par l'ANR relatives à l'atteinte à la sûreté de l'État. Détention pendant plus de 100 jours au cachot de l'ANR de maître William Baloumé Kazegwa, avocat au barreau de Goma dans le Nord Kivu, alors qu'il attendait son vol à l'aéroport de Ndjili pour Dubaï. William Baloumé Kazegwa a été interpellé le 21 novembre 2021 à l'aéroport pour atteinte à la sûreté de l'État. Son avocat, maître Bertin Amani, exige également sa libération immédiate ou son transfèrement devant la justice, car selon l'avocat au barreau de la Gombe, cette détention pendant plus de 100 jours est un abus de pouvoir de la part de l'ANR. Maître Bertin Amani, avocat au barreau de la Gombe, est au micro de Michel Kifindangoy.
À ce jour, il est plus de 100 jours et maître William Kavebois n'a ni le droit de recevoir la visite de sa famille, ni celle de son conseil. Nous avons, en date du 21 janvier 2022, saisi les autorités compétentes. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Sénat, les vice-premiers ministres de l'Intérieur et toutes ces autorités-là sont restées silencieuses. Les enquêtes s'en font soi-disant autour d'une atteinte éventuelle à la sûreté de l'État. Cette accusation devient, semble-t-il, une accusation chérie de l'autorité de l'Agence nationale des renseignements. C'est comme s'il avait carte blanche pour ne respecter aucune loi. Il est temps que l'Agence nationale des renseignements respecte les droits fondamentaux. C'est en cela que nous pourrions parler de l'état des droits dans notre pays.
L'assassinat des défenseurs de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana a inspiré le droit de l'homme à se doter d'une loi de protection. Voilà qui justifie l'organisation d'un atelier d'échange entre plusieurs associations de la société civile depuis hier vendredi pour influencer les parties prenantes clés, notamment les députés nationaux, à quelques jours de la rentrée parlementaire, à prendre des mesures et positions en faveur des DDH. Une proposition de loi de protection des défenseurs de droits humains vient d'être déjà endossée par un député. Quelle en est l'opportunité? Junior Safari du réseau de protection des DDH, victime, témoin et professionnel des médias, explique au micro de Jeff Ngoy.
Alors, parlant de l'opportunité, ce que nous devons retenir de cela, c'est que la proposition de loi est venue d'un contexte ou des observations qui ont été, ça et là, décriées, que ce soit par les défenseurs des droits de l'homme, que ce soit par les partenaires accompagnants des défenseurs des droits de l'homme. Il y a la fragilité qui a été observée sur le terrain. À travers cette fragilité, il y a eu des recrudescences des menaces, il y a eu des arrestations multiples des défenseurs des droits de l'homme dans tous les pays. Il y a le contexte politique qui n'est toujours pas favorable dans le travail des défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi cette manque de reconnaissance, de légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme. D'autre part, quand même évoquer les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le cadre des dialogues et d'échanges, bien évidemment, à travers plusieurs actions de plaidoyer menées par les organisations de la société civile.
Le comité de suivi et d'accompagnement de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, exhorte les députés nationaux, à travers la conférence des présidents, à inscrire à l'ordre du jour du calendrier de la session de mars 2022 la question relative au choix des 9 membres de cette institution d'appui à la démocratie. Dans une déclaration à la presse hier vendredi à Kinshasa, le modérateur de ce comité, Dieudonné Kabasonga Ndouba, indique que le processus de désignation et des renouvellements des membres de la CNDH a déjà pris fin et les listes des nouveaux candidats sont déjà déposées au bureau de la Chambre basse du Parlement. D'autres détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Dans sa déclaration, le comité de suivi et d'accompagnement de la CNDH rappelle que la date butoir de ce processus avait été fixée au 23 décembre 2021 par le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui a permis aux 8 composantes instituées pour la circonstance de s'approprier de ce processus de renouvellement des membres de cette institution d'appui à la démocratie. Leurs séances, précise la déclaration, ont été sanctionnées par des procès-verbaux respectant les principes de la parité homme-femme et déposées à l'Assemblée nationale dans les délais conformes au communiqué officiel de son rapporteur du 11 décembre 2021. Étant donné que l'ouverture de la session parlementaire de cette année est prévue le 15 mars prochain, ce comité exhorte les députés nationaux à inscrire à l'ordre du jour de son calendrier la question relative au choix des 9 membres de la CNDH en vue de l'adoption et la présentation devant la plénière de ses nouveaux membres. Par ailleurs, le comité de suivi et d'accompagnement de la Commission nationale des droits de l'homme exhorte le président de l'Assemblée nationale à se libérer de la pression des groupes politiques qui, sous couvert de la désorganisation imaginaire ou entretenue par une société civile non concernée, cherchent à injecter dans cette institution d'appui à la démocratie des personnalités à leur solde. Une démarche contraire à la cohésion et à la représentativité nationale équitable dans les institutions et qui s'exposerait aux actions judiciaires et aux désaveux des mouvements des droits de l'homme de la RDC par les organisations régionales et internationales.
La femme congolaise, en particulier celle qui est issue des milieux périphériques, est souvent victime des effets du changement climatique et des diverses catastrophes. Voilà pourquoi son implication dans la protection de l'environnement s'avère très importante. C'est ce qu'affirme une organisation qui encadre les femmes vulnérables à Goma. Emmanuela Vasikia, secrétaire exécutive de l'ONG Action des volontaires pour la solidarité et le développement, évoque par exemple le cas des inondations, l'éruption volcanique, la sécheresse et bien d'autres qui affectent beaucoup plus la femme dans la communauté. D'où ce message lancé à toutes les femmes en marge de la Journée internationale de la femme. Emmanuela Vasikia est au micro de Sifa Maguru.
Parce qu'on a montré aux femmes que, au lieu de se lamenter que non, il y a des déchets par-ci par-là, il y a des saletés par-ci par-là, voyez comment transformer ces déchets, que ces déchets soient rentables. Parce qu'au moins, la plupart des femmes ne savaient même pas que, avec les papiers, on peut même transformer ces papiers pour faire des perles. Elles ont compris que, on ne jette pas les papiers, on ne jette pas les caoutchoucs, on ne jette pas les bouteilles plastiques, ça peut permettre à ce que vous puissiez même être milliardaire.
Est-ce que vous avez connu des défis jusque-là par rapport à ce travail?
Les défis sont énormes, madame. On a trouvé qu'il n'y a pas vraiment assez d'entreprises de femmes qui travaillent dans les domaines du changement climatique, ou soit voir comment lutter contre la pollution de l'air et tout ça. Et ceux-là qui travaillent dans ces sens-là ne sont pas connus, ne sont pas primés, ne sont pas encouragés. Et il n'y a pas les systèmes là de mentorat. Ceux-là qui les font et ne sont pas connus et ça ne peut pas permettre à ce que même la génération future puisse s'approprier les actions.
Emmanuela Vasikia ajoute entre autres défis la non-scolarisation des femmes vulnérables, mais aussi le manque des moyens techniques et financiers pour leur permettre d'initier de grands projets. À Béni, les femmes leaders ainsi que les autorités politico-administratives de la place ont réfléchi hier vendredi sur les mécanismes de l'autonomisation de la femme, organisés par le bureau genre, famille et enfants en collaboration avec le bureau genre de la MONUSCO Béni. Ces assises avaient comme objectif d'épingler les défis qui freinent l'autonomisation de la femme. Des recommandations ont été émises dans tous les sens, dont les unes ont été adressées particulièrement à la MONUSCO. Aimé Siwako de l'association Femmes citoyenne engagée revient sur ses recommandations au micro de Marc Marofimbo.
Nous voulons que la paix soit rétablie parce que dans l'insécurité, la femme ne peut pas s'autonomiser. Il n'y a pas moyen de travailler. Il n'y a pas moyen d'aller faire les champs. Il n'y a pas moyen de faire même des petits commerces. Aujourd'hui, la guerre, demain, l'insécurité, en tout cas, c'est fatigant. Il faut que la MONUSCO fait des plaidoyers à la Banque mondiale afin de soutenir la femme dans ses petites activités d'entrepreneuriat. Nous voulons que la MONUSCO s'auto-évalue depuis tout ce temps qu'elle est avec nous, pour voir comment les textes qui favorisent l'autonomisation de la femme, ici au niveau des Béni, si vraiment elle a une main mise sur ça. Nous voulons que la MONUSCO nous accompagne dans la sensibilisation d'autres femmes, parce qu'il y a d'autres textes qui sont en notre faveur, comme de la résolution 1325. Nous voulons que la MONUSCO nous accompagne dans la sensibilisation d'autres femmes pour que nous soyons à la même longueur d'onde.
Clôture hier vendredi de la foire des femmes des médias organisée à Kinshasa. Le thème retenu pour cette troisième édition a porté sur le rôle des femmes des médias dans le processus de l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes. La troisième journée de cette activité a été marquée par la tenue d'une table ronde et des animations musicales. Plus de détails avec Jean-Francis Mouya.
Plusieurs activités ont été organisées à l'occasion de cette journée de clôture de la Foire des Femmes de Médias. On retient notamment des expositions des produits alimentaires, des journaux imprimés et archives d'émissions, des prestations musicales ainsi que l'enregistrement sur place de l'émission Okapi Service des radios Okapi avec comme intervenants des femmes journalistes. Il a été question de débattre notamment sur le rôle des femmes de médias dans le processus de l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes. Selon Michelle Makonko, co-organisatrice de l'activité et coordonnatrice adjointe de l'Union Congolaise des Femmes de Médias UCOFEM, la tenue de la troisième édition de la Foire des Femmes des Médias est une réussite car les objectifs fixés ont été atteints.
C'était fantastique. Les panélistes avaient de la matière, ils ont donné la matière, on a posé des questions. C'était comme si question-débat. Donc c'était fantastique pour cette troisième journée qui est vraiment différente de deux jours. Nous avons atteint les objectifs. C'est ce qu'on voulait. Vous avez vu, la salle était pleine. Les gens ont suivi avec intérêt les différents panels, donc les différentes discussions. Ils ont participé aussi au débat. Alors c'était intéressant parce que quand vous organisez des activités comme ça, c'est pas pour les journalistes seulement. Il faut que tout le monde puisse donner des idées. On est venu pour échanger des idées. Donc, on a vu les participants poser des questions pertinentes. Ils ont eu aussi les réponses à leurs questions. Voilà ce qui était important.
Cette foire a été organisée par l'UCOFEM et l'Association congolaise des femmes journalistes et de la presse écrite, ACOFEP.
Rendons-nous à Uvira au sud Kivu. Deux projets de fabrique de savons et de rizières en faveur de 100 ex-combattants démobilisés et 100 jeunes à risque, y compris des femmes vulnérables, ont été lancés jeudi à Kiliba, dans la plaine de la Ruzizi. Il s'agit de projets de réduction des violences communautaires de la MONUSCO et exécutés par deux ONG locales. Le gouverneur de la province du sud Kivu, Teongwa Bidje, a présidé cette cérémonie de lancement de ces projets en présence du coordonnateur national du PDDRCS et du chef de bureau de la MONUSCO pour le Sud Kivu et le Maniema. Fiston Goma nous fait le point.
Les ex-combattants ont reçu chacun 50 mètres carrés de rizière dans la basse plaine d'Équilibre à Ondès. Ils espèrent y produire au moins 600 kg du riz padi. Un lot important d'outils aratoires, des semences et des engrais chimiques leur ont été remis devant la foule venue nombreux assister à la cérémonie. Le responsable de l'ONG UKADI explique.
Le projet s'articule autour de trois composantes. Le renforcement des capacités en termes de formation sur la conduite de la riziculture, la gestion d'une activité génératrice de revenus et la gestion d'une exploitation agricole.
D'autres jeunes formés sur la fabrication et la commercialisation du savon sont répartis en petits groupes de 10 chacun. Ces activités socio-économiques interviennent dans une région où la population locale autour de la sucrerie d'Équilibre s'est dit accablée d'attendre la relance de l'usine sucrière en faillite depuis plus de 20 ans. L'administrateur du territoire d'Ouvira, Mme Julie Sango, a relayé devant le gouverneur Tohongwa Bidje la souffrance de cette population, dont la majorité est constituée des jeunes. Faute d'emploi, certains se sont retrouvés dans la brousse et procèdent au kidnapping, au braquage sur la route et au vol de bétail pour survivre. Le coordonnateur Tommy Tambwe, qui l'a relayé devant le public, a rassuré que le programme P2DRCS a inscrit plusieurs projets de réinsertion, ciblant ce jeune d'Équilibre à la seule condition qu'il dépose les armes et rentre dans la communauté pour faire la paix. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Zambie, disparition de l'ancien président de la République, Rupia Banda. Il est décédé hier vendredi à l'âge de 85 ans des suites d'une longue bataille contre un cancer du côlon. Son fils, Andrew Banda, l'a annoncé à l'agence France Presse, quatrième dirigeant du pays depuis son indépendance du Royaume-Uni. Il a exercé ses fonctions pendant 3 ans à partir de 2008.
L'invité.
Bonne nouvelle pour les requérants des passeports. Après plus d'un mois, le ministère des Affaires étrangères reprend ce jour la délivrance des passeports. Son secrétaire général, l'ambassadeur Joska Kabongongoy, affirme que son ministère venait de recevoir un premier lot de 6 rouleaux de laminant provenant des États-Unis et les autres suivront dans moins d'une semaine. Il parle aussi de la situation des Congolais en Ukraine dans cet entretien avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour, monsieur le secrétaire général.
Bonjour.
Ça fait plus d'un mois aujourd'hui que le passeport congolais n'est plus délivré aux requérants. Qu'est-ce qui se passe au juste?
Je pense que c'est une question qui avait déjà été répondue à plusieurs reprises par le vice-premier ministre lui-même. Mais comme vous insistez et que vous voulez toujours en savoir plus, je suis obligé de vous apporter la réponse. Ce que vous devez savoir, pour avoir un passeport, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a des intrants. Et tous ces intrants-là ne sont pas délivrés par un même livreur. Alors, nous avions connu un problème de laminant. Laminant, vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, nous avions connu une carence de laminant par le fait que les fabricants américains, à cause de la Covid, avaient réduit la production. Donc, ce n'est pas par le fait du gouvernement congolais ou du ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas aussi parce que l'argent avait manqué, mais tout simplement parce que le fabricant lui-même, à cause de cette situation de la maladie, a pu décider de réduire la production. Et au jour d'aujourd'hui, la solution est déjà trouvée parce que nous avions reçu 6 rouleaux de laminant qui peut permettre à produire 9000 passeports. Donc on ne peut plus parler de la situation des carences pour le moment.
Quand est-ce que le premier passeport sera de nouveau délivré?
Mais à partir d'aujourd'hui, parce que nous avions reçu les rouleaux depuis hier. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus question de carence. Peut-être le problème parce qu'on a accumulé beaucoup de passeports. Donc on ne saura pas dans un petit temps satisfaire à tout le monde, mais au moins la production commence déjà.
Les Congolais se posent toujours la question, pourquoi l'hôtel des monnaies ne peut pas fabriquer le passeport au lieu d'avoir ce problème de pénurie à tout moment?
Bon, je pense que la solution est en train d'être trouvée. Bientôt là, ce que les gens veulent là, ça va se réaliser.
Alors, monsieur le secrétaire général, quelle est la situation aujourd'hui des étudiants et autres Congolais vivant en Ukraine?
Vous revenez encore à ça, mais je pense que le vice-premier ministre, son excellence Lutundula, lorsque la guerre a commencé, il a suivi la situation de près et des dispositions très très appropriés ont été trouvés. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, déjà demain, une délégation gouvernementale va se rendre en Pologne pour essayer un peu de soulager tous ces Congolais qui sont là-bas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a aidé les étudiants qui étaient en Ukraine de pouvoir être évacués. Ça, c'est aux frais du gouvernement.
Maintenant, il faut les rapatrier au pays. Et ceux qui voudraient aller ailleurs, toujours là, en Occident, le gouvernement est aussi prêt à les aider pour aller continuer, par exemple, leurs études ailleurs ou vivre dans d'autres pays européens.
Donc la seconde étape sera de demander à chaque Congolais là de dire ce qu'il veut. Ceux qui voudraient bien retourner au Congo, le gouvernement va prendre des dispositions quant à ça. Par ailleurs, ceux qui vont vouloir rester, donc le gouvernement ne peut rien faire en ce moment-là.
Monsieur le secrétaire général, on a appris que les comptes de l'ambassade et les diplomates congolais aux États-Unis d'Amérique ont été bloqués suite à une dette de la SNEL. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement congolais pour décanter cette situation?
Le dossier est en train d'être traité et je crois que d'ici là, la solution sera trouvée.
Certains de nos compatriotes disent que le passeport ne coûte pas 99$ comme annoncé par le gouvernement. Aujourd'hui, pour sortir un passeport, il faut débourser au moins 150$.
Le passeport coûte 99$. Le passeport n'a jamais coûté ce que vous dites là. À moins que quelqu'un vienne me dire qu'il a été à la banque, il a versé 99$, la banque a refusé de recevoir 99$. Pourquoi les gens se font rançonner? Les gens se font rançonner tout simplement parce qu'ils cherchent des intermédiaires. Ils cherchent des intermédiaires. Quand vous cherchez un intermédiaire, il va vous rançonner l'argent. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train de prendre des dispositions utiles, appropriées, pour que désormais, qu'il y ait la numérisation de la procédure d'obtention du passeport. De manière que, lorsque vous voulez avoir un passeport, vous allez payer à un seul guichet et personne ne viendra pour s'interposer, puis chercher à vous rançonner.
Et toutes les autres démarches se passeront dans les guichets là ou bien?
D'abord, quelles sont ces démarches? Le passeport, vous l'achetez à une banque, les banques sont connues, on vous remet un formulaire, vous remplissez le formulaire, vous vous adressez à l'ANR pour l'identification. Quelles sont ces démarches? Il n'y a que les deux là. Une fois que l'ANR vous identifie, il envoie les dossiers aux affaires étrangères, on vous programme, vous êtes capturé et puis on vous donne votre passeport. Mais ce sont les intermédiaires qui créent des situations que nous, nous ne connaissons pas officiellement.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général.
Je vous remercie.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.